dans cet épisode du balado compte complet.
Non, mais OK, fait que toi, dans le fond, ce que tu dis, c'est que la haute direction actuellement a posé des gestes suffisants dans le passé pour que tu leur accordes, par exemple, un vote de confiance qu'eux vont être en mesure de ramener le bateau à flot.
Ben, Paul, écoute, il va falloir s'arrêter à bon port avant. Je pense que le bateau, présentement, a besoin d'un arrêt à quelque part.
En jeu! Deuxième prise! Compte complet!
Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huzreau et Marc Griffin.
Bienvenue à Compte complet. Nous sommes à la dernière semaine du mois de mai. Alain Huzreau en compagnie de Marc Griffin. On s'approche du tiers de la saison. La nouvelle des derniers jours, Marc, c'est la blessure à Ronald Acuña Jr. survenue dimanche. À l'origine, même Acuña ne croyait pas qu'il était pour être absent pour une période prolongée. Puis finalement, c'est le reste de la saison. Il n'avait pas une très bonne campagne. Est-ce qu'il était déjà ennuyé par son genou? C'est pas le même qui lui a fait rater en passant là, toute la saison ou à peu près 2021.
Non, c'est l'autre genou dans le cas de Acuña Junior. Évidemment, un geste où il a voulu surprendre un peu la défense. Là, il était coureur au deuxième et finalement, il s'est retrouvé à faire un pivot et là, tout de suite, immédiatement, il s'est retrouvé au sol en douleur. Écoute, c'est tellement malheureux parce que c'est vraiment un joueur spectaculaire. Tu l'as dit, il ne connaissait pas un très bon début de saison, mais ça reste un joueur qui aurait pu exploser d'un moment ou l'autre. Dur coup pour les Braves, très dur coup pour les Braves. Je sais qu'ils ont remporté la Série mondiale sans lui, mais bon, ça reste que c'est un joueur important, un joueur, joueur par excellence l'an dernier. C'est un joueur qui peut transporter une équipe à lui seul à un certain moment donné, peut tout faire sur un terrain, peut courir, peut frapper avec puissance, excellent bras au champ droit, donc... Très, très lourde de perte. C'est triste parce que c'est un. Tu sais, lorsque tu passes à travers une blessure, Alain, comme il a déjà passé au travers, c'est très difficile mentalement. Hein? Faut que tu te motives, faut que tu. Tu sais, tu veux revenir au jeu, c'est très frustrant, c'est très long, tu dois attendre. Tu sais, c'est pas toujours nécessairement évident. Et là, il doit recommencer le processus. J'ose m'imaginer à quel point là, ça doit être difficile pour lui. Parce que, tu sais, dans le fond. Tu as l'impression que tu laisses tomber tes coéquipiers. Tu n'as pas fait exprès, évidemment, de te blesser, mais ça reste quand même le sentiment que tu dis, tu sais, j'aurais aimé ça être là pour les aider. On est supposé terminer au premier rang, puis là, je ne serai pas là pour les aider. Donc, pas évident pour Acuña Junior, pas évident pour les Braves. Je suis convaincu qu'Alex Antopoulos est déjà en train de regarder des scénarios dans ce cas-ci, mais pour le joueur, là, je trouve ça terrible.
Oui, écoute, en 2021, Jorge Soler avait quand même pris la relève de brillante façon. On peut dire Adam Duvall aussi l'avait fait. Ils avaient contribué à la cause des Braves d'Atlanta. C'est un dur coup. Marc, tu sais, on parle souvent de ces contrats à long terme parfois qui, tu sais, les agents ne sont pas très friands. Quelques agents, notamment Scott Boras, pas le nommer. Dans le cas d'Acuña, compte tenu de ses blessures graves au genou, ben, dans son cas, c'est une assurance qui vaut son pesant d'or. Là. Je parle juste là, dans son cas, de, monétairement parlant.
Ben écoute, Alain, tu as tout à fait raison de le mentionner. Tu sais, souvent, les gens disent « Ah, là, il faudrait renégocier le contrat, il est sous-payé parce qu'il ouais. a bon, signé son contrat il y a quelques années. » Mais les gens oublient que s'il y a un risque, il y a un risque de se blesser, il y a un risque, bon, pas juste de se blesser, mais un risque où finalement les performances sur le terrain ne sont pas adaptées, évidemment, au contrat, mais dans ce cas-ci, tu as raison. Ce qui me vient en tête, c'est le contrat de Rondell White. Je me souviens, à l'époque, Rondell White avait signé un contrat avec les Expos, là, contrat de 10 ans, et là, tout le monde, même l'association des joueurs avait dit, ben voyons donc, c'est quoi ce contrat-là? Il aurait pu attendre. Ouais. Et il a subi une grave blessure à la première année de ce contrat-là. Heureusement qu'il est revenu, mais ça a passé bien près que sa carrière se termine à ce moment-là. Donc, Des contrats à long terme, effectivement, c'est une police d'assurance. Dans ce cas-ci, je pense qu'Acuna est très heureux de l'avoir signé, là.
Oui. Bon, écoute, on va se croiser les doigts pour les Braves d'Atlanta. Il y a des défis également. Il faut se trouver un cinquième partant fiable. Et il y a certains joueurs qui ont commencé à frapper. Olson marque semble sur la bonne voie pour les Braves d'Atlanta. En relève, on a peut-être besoin d'aide aussi. Généralement, là, Alex Antopoulos là, parvient à colmater les brèches. Il y aurait un défi supplémentaire cette année avec cette très, très lourde perte. Là, parce qu'il n'aurait pas fini avec un MPP à 700, là, Ronald Acuña.
Non.
S'il avait été en santé de la
fête. Exact, exact, Alain. Mais si un directeur général qui est capable de s'en sortir, c'est, en tout cas, sa feuille de route, là, je pense qu'elle est assez claire. Il avait rebâti un champ extérieur au complet. Déjà dans une saison. Donc, je sais que là, on va l'attendre avec, évidemment, là, on connaît la situation des Braves. Là, ça sera pas une cachette, là. Mais si un directeur général ou un personnel d'opération baseball là, qui peut faire les choses de la bonne manière, ce sont bien le personnel des Braves d'Atlanta, là.
Oui, on avait terminé la saison avec Soler, Rosario et Duval comme voltigeurs. J'ai l'impression que Rosario ne coûterait pas trop cher si on voulait aller le rechercher. Je dis juste comme ça. Soler, c'est une autre histoire. Marc, je vais te parler des Blue Jays de Toronto. Ça n'a pas été une très bonne semaine. On vient de perdre 3 matchs sur 4 contre les Tigers de Détroit. La défaite de dimanche a fait réagir beaucoup de partisans. Bon, tu comprends que le nom de John Schneider est sur toutes les lèvres. Mais dimanche, tu veux qu'il fasse quoi? Il mène par quoi? 2 points? En 8e manche, puis envoie ses 2 meilleurs releveurs qui accordent 5 points dans les 2 dernières manches. À un moment donné, tu peux pas produire à la place de tes joueurs.
Non, écoute, c'est sûr, mais dans le monde du sport, évidemment, il y a quelqu'un qui doit payer le prix à un moment donné. Et souvent, c'est l'entraîneur-chef. Donc, il est souvent le premier qu'on blâme là-dessus. Mais tu as raison, écoute, la relève a donné 9 points. En fait, c'est la pire relève du baseball actuellement, celle des Blue Jays de Toronto. C'est pas une bonne combinaison parce que les partants font un travail honnête. L'attaque ne produit pas beaucoup. Alors, ça te prend une relève qui est capable de compléter le travail des partants, puis là, c'est tout à fait l'inverse qui se produit. Alors, aussitôt que tu as l'impression qu'il y a un bon départ où la relève fait bien, l'équipe ne frappe pas, là, tu as l'impression que l'attaque se réveille, c'est la relève qui échoue. C'est pas une situation facile. On se retrouve déjà très loin d'une place en série. Même si vous êtes, si vous regardez le classement, vous dites, ils sont peut-être à 5 matchs, une place en série. Oui, mais tu as 7 ou 8 équipes à rattraper. C'est pas le chiffre, là, parfois, est un peu trompeur. Écoute, il reste assez de temps pour, tu sais, faire des choses, compléter soit une transaction. Le problème en ce moment, Alain, c'est que, tu congédies le gérant, je veux dire, oui, mais tu as la même équipe, là, tu as le même rendement. Est-ce que quelqu'un va être un peu meilleur? Si tu fais une transaction ou tu essaies de faire une transaction, tout le monde t'attend parce que tu sais bien que tu es dans le trouble. Fait que le prix à payer va être pas mal plus cher. Alors, c'est pas une situation évidente dans laquelle se retrouvent les Blue Jays de Toronto, mais chose certaine, si tu regardes le passé, que ce soit des Blue Jays ou des équipes qui n'ont pas joué, même pas proche là, à la hauteur de ce qui était prévu, c'est souvent la fin mai, début juin là, qu'il se passe des choses, qu'il y a des changements possibles, parce que là, ça te donne assez de temps. Alors, tu sais, c'était une partie du calendrier avec des séries contre les White Sox, les Tigers et à nouveau les White Sox, où là, les Blue Jays auraient pu dire, OK, là, on a des adversaires, ce sont quand même du baseball, des équipes du baseball majeur, mais on a peut-être un calendrier qui nous avantage. On n'en a pas profité. On a perdu 3 matchs sur 4 contre les Tigers. Parce qu'écoute, Alain, tu le sais, là, si on congédie John Schneider, il y a pas mal de monde qui devront se regarder dans le miroir, mais qui ne seront pas congédiés parce que tu ne peux pas congédier. À moins que la direction de Rogers dise OK, on fait maison nette puis on remplace tout le monde, incluant Shapiro. Mais ça reste que c'est une situation extrêmement délicate à Toronto. Moi, je vois pas comment on va s'en sortir, personnellement. Je trouve que c'est dans une situation extrêmement difficile. Ouais. J'ai entendu les rumeurs. Est-ce qu'on échange certains joueurs? Mais écoute, il n'y a pas une grande valeur. Outre Vlad qui s'est mis à frapper, puis là, ça prouve une chose, c'est qu'un joueur peut pas tout faire, alors que Vlad a haussé sa moyenne au-dessus de 300. George Springer, là, tu peux pas l'échanger. Là. T'as-tu vu le contrat qu'il a, l'âge qu'il a, le rendement qu'il a? Il n'y a aucune valeur. Alors, on a beau dire on va se débarrasser un peu du bois mort, ils n'ont pas de valeur, ces gars-là, présentement.
Marc, tu parlais, juste renchérir ce que tu disais tantôt, le rendement des lanceurs partants n'est pas si bon que ça. Il y a des bonnes performances, Berrios, c'est très bon, mais pour le reste, je regardais, puis les releveurs, de loin, c'est le pire rendement du baseball majeur. Je regardais, chez des lanceurs partants, là, chez, présentement, il y a juste les Ace d'Oakland qui font pire.
Ah, écoute, puis pourtant, ça, c'est la force de l'équipe. Tu sais, mais il peut pas.
C'est supposé.
Ben oui, exact. Alors, c'est pour ça que je dis qu'on est vraiment dans le trouble. On n'a pas un élément qui nous permet en ce moment. Puis, tu sais, les seuls gars qui ont un peu de valeur, ce sont justement les Berrios de ce monde et tout ça. Mais là, tu n'es pas pour les échanger parce que là, tu vas te retrouver avec un trou, là, un trou béant à ce niveau-là. Donc, pour ça que là, présentement, on est dans le trouble. On n'a pas, évidemment, de joueurs qui s'en viennent, qui peuvent nous aider en termes de, bon, du réseau de filiales. On est à la croisée des chemins parce que le contrat de Bichette est guéri. En fait, les deux s'en viennent joueurs autonomes à la fin 2025. On voit bien, là, tu sais, on a fait le match des Cards, par exemple, dimanche, Alain. Puis on parlait de la rotation, puis on disait, c'est vieillissant. Mais là, on se fie à Springer, on se fie à des joueurs qui sont plus âgés. C'est ça. On s'est fié. En fait, beaucoup de monde se sont trompés. Tu sais, moi-même, là, je me disais, bon, les Jays avec Turner, avec Vlad, qui va être probablement en mission, Bichette va continuer son rendement. Tu sais, on espérait des bonnes choses avec le personnel de partant. Mais je pense qu'on a tous surévalué cette équipe-là, et incluant la haute direction des Blue Jays, qui a surévalué cette formation-là. Parce que, honnêtement, aujourd'hui, tu regardes la formation partante, ça intimide personne. Ça n'intimide personne, cette formation-là. Puis on sent pas là, que ça va débloquer là, dans les prochains matchs.
Ouais, écoute, l'évaluation, Marc, on pourrait en débattre là, parce qu'on l'a mentionné dans le passé, c'est quand même 3 participations en série au cours des 4 dernières années. Je sais que 2020, c'est un peu spécial, mais on l'a quand même fait au cours des 2 fois au cours des 3 dernières années. L'an passé, Marc, on n'a pas eu une saison à la hauteur des attentes. On l'a fait parce qu'on a assez bien joué, on avait assez de talent pour compenser un manque de rendement. Mais c'est clair que moi, je pense que Bo Bichette est dû pour passer ailleurs. Dans le cas de Vlad, il faut sérieusement se pencher sur son avenir. On a été très sévère à son endroit, Marc, mais il demeure le meilleur frappeur de l'équipe dans les moments importants et tout ça. D'ailleurs, je regardais le rendement des premiers buts. Là. Globalement, là, dans la Ligue américaine, là, ben, ça, le premier but des Blue Jays de Toronto, peu importe qui joue là, est le meilleur de la Ligue américaine. T'sais, je sais qu'il y en a qui en arrachent un peu partout. Mais, écoute, puis c'est Guerrero qui joue là. Donc, je trouve qu'on en a mis beaucoup sur les épaules de Guerrero, moi, au fil des
années. Oui, mais écoute, ben, Alain, les attentes étaient quand même élevées là, après sa saison 2021. Là. Oui. Mais effectivement, mais moi, je pense que Vlad, au-delà de 2025, ne sera plus un Blue Jays. Je pense que lui aussi a besoin d'un changement d'air. Lorsque tu fais partie... Tu fais partie de la solution pendant des années pour, tu sais, qu'on bâtit autour de toi. Si ça n'a pas fonctionné, en tout cas, certainement, si les Jays ne vont nulle part cette année et l'an prochain, Vlad va quitter. Puis à ce stade-ci, ben, même si c'est pas l'unique responsable des déboires, moi, je pense pas que John Schneider va terminer la saison si ça se continue ainsi, là. Donc, il va y avoir des changements. Ça, c'est clair, là, du côté des Jays, là, dans les prochaines semaines.
Même si Schneider prend pas beaucoup de décisions, en tout cas, c'est de la façon dont je vois les choses, Marc.
Non, c'est clair.
Pas sûr, là, qu'il en prend beaucoup.
Non, il en prend pas beaucoup, mais ça prend quelqu'un, tu sais. Là, tu as vu, écoute, les partisans là, sont outrés là, de ce qui se passe. Alors, pas sûr que Rogers apprécie ça. Faut vendre des billets, faut avoir du monde dans le stade. Ça prend un peu d'espoir, ça prend un peu de leadership pour que la direction démontre qu'on est sérieux pour améliorer l'équipe et donner la meilleure chance à l'équipe de faire les séries.
Ben écoute, Marc, ça nous amène à la question de la semaine qui est présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voitures et de camions classiques et antiques. On vous invite à consulter le www.sylmar.ca. Avez-vous confiance que la direction des Jays va prendre des bonnes décisions, peu importe la direction qu'on va prendre? Donc, on vous invite à vous prononcer, à nous envoyer vos commentaires sur notre page Facebook, facebook.com/comptecomplet/balado, ou encore passer par notre site comptecomplet.com. Écoute, les deux prochaines années vont être très importantes. Ben, moi, écoute, Marc, j'ai mentionné trois participations en série au cours des quatre dernières années.
Non, non.
Je pense qu'on a fait des bonnes choses, mais jeter l'eau avec le bébé du bain, je ferais bien, bien attention.
Non, mais OK. Fait que toi, dans le fond, ce que tu dis, c'est que la haute direction actuellement a posé des gestes suffisants dans le passé pour que tu leur accordes, par exemple, un vote de confiance qu'eux vont être en mesure de ramener le bateau à flot.
Ben, Paul, écoute, il va falloir s'arrêter à bon port avant. Je pense que le bateau présentant a besoin d'un arrêt à quelque part. Puis est-ce que c'est cette équipe de direction-là qui va être capable de repartir le bateau? Je pense que c'est le mandat qu'on va leur donner. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Compte tenu qu'on a quand même, je trouve que la feuille de route est quand même pas si inintéressante que ça.
OK. Donc, la transaction de Moreno, la transaction de Teoscar... Non, mais je veux dire, c'est non. Ça, là. Il faut se fier un peu à la feuille de route. Oui. Tu sais, des mises sous contrat de Turner, oui. C'est intéressant, mais est-ce qu'on a réellement bien entouré, bon, Bichette et Guerrero? Tu sais, il faut se poser la question, là.
Oui, il y a des choses qu'on a bien fait. On s'est doté d'un bon personnel de lanceurs, sauf qu'il est arrivé un paquet d'affaires. Romano était bien sûr qu'en entraînement. Swanson a dû quitter pour des raisons X. De penser qu'on était pour avoir le même rendement deux années de suite de la part des lanceurs, ça c'était peut-être utopique un peu, mais tu sais Marc, on est pris quelquefois avec les contrats qu'on accorde. Springer en est un très très bon exemple.
Alain, je rappelle aux gens qui nous regardent et nous écoutent que notre commanditaire principal Plan de Match, c'est une boutique baseball à Boucherville avec cage de frappeur. Donc si vous avez besoin d'équipement de baseball, ils ont la boutique en ligne également, donc boutiqueplanmatch.com. C'est un endroit magnifique donc pour venir s'entraîner aussi durant les journées pluvieuses d'été et durant l'hiver, évidemment, pour préparer votre élan. On donne également à Plan Match quelques cours privés, donc allez sur le site Internet à ce sujet. Je vous rappelle aussi la meilleure manière de nous rejoindre pour savoir où nous rejoindre ou nous écouter. Eh bien, c'est le www.comptecomplet.com.
Marc, il y a un débat qui a cours depuis de nombreuses années au sein de la communauté des ceux qui font des études statistiques, les coureurs en position de marquer. Bon, est-ce que c'est l'effet du hasard? Est-ce que c'est dame chance? Est-ce qu'il y a des joueurs qui réagissent mieux? Bref, ça ne fait pas consensus. Je dis ça, Marc, parce qu'il y a deux équipes qui vont bien quand même, Kansas City et Cleveland, qui ont des fiches quand même supérieures à la moyenne dans ces conditions-là. Et là, je parle d'équipe. Et est-ce que c'est soutenable d'avoir un rendement comme celui-là de deux équipes qui ne sont pas reconnues pour leur attaque là, sur le long terme? Et là, je parle d'équipe. On pourra parler de façon individuelle par la suite. Là, j'ai ma petite opinion là-dessus. Moi, j'ai l'impression qu'en tant qu'équipe, Marc, écoute, c'est le tiers de la saison. Si on est capable de maintenir ça, la moitié de saison, ça va être très bon. Rappelle-toi, l'année passée, je pense que c'est les Rangers du Texas qui avaient un rendement tout à fait exceptionnel, qu'on n'a pas été capable de soutenir, mais on a été bon quand même. Mais c'était une bonne attaque. Dans le cas de Kansas City, Cleveland, je suis moins sûr.
Bon, écoute, Alain, il y a plusieurs facteurs dans ce que tu dis. Moi, je pense que ça fait partie d'une approche d'équipe. Ça commence peut-être de façon individuelle, mais c'est une approche d'équipe qu'un gérant ou évidemment un personnel baseball peut amener. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être meilleur avec des coureurs en position de marquer? Quelle est l'approche du frappeur? Tu sais, longtemps, ça fait quelques années, Alain, qu'on dit qu'il n'y a plus d'approche à deux prises. Les gars s'élancent en fou. Les vitesses d'élan sont les mêmes à deux prises qu'avec un compte favorable. Mais ça se peut aussi qu'il y a des équipes, parce qu'on voit que les 30 équipes sont gérées de façon différente. Il y a des similitudes, oui, mais il y a des éléments qui sont adaptés à chacune des équipes. Et puis lorsque le succès vient sur un changement d'attitude ou un changement d'approche, il y a un changement, bon, tu le vois, là, tu parles des Royals. Puis en passant, les Royals et les Guardians, écoute, ils ont des différentiels là, de plus 70 et davantage. Alors, on est, tu sais, c'est pas juste là, on fait marquer des points dans les moments opportuns, puis on a un plus 10, là, on domine là, à ce niveau-là. Donc, tout l'aspect baseball de situation, tout l'aspect de frapper, d'avoir une approche, tu sais, je dirais pas un taux de concentration plus élevé, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est qu'on essaie peut-être d'en faire un peu moins, d'être un petit peu plus simple dans notre approche. puis ça semble fonctionner. Est-ce qu'on peut le maintenir sur une saison 62 matchs? Tu sais, la réponse est pratiquement non, parce que, Alain, tu le sais, là, c'est des saisons qui sont longues, mais est-ce que ça peut t'amener à créer, comme les Guardians et les Royals ont fait, de créer une avance, de créer une situation avantageuse pendant le plus longtemps possible? Moi, je trouve ça fantastique. Alors, je suis convaincu, là, j'ai pas la réponse, mais je suis pas mal convaincu que c'est vraiment une manière de jouer. Tu sais, Steven Voigt est un nouveau gérant avec les Guardians. Bon, Frank Ona a connu beaucoup de succès, mais Voigt est un ancien receveur. Rappelle-toi, en début d'année, on disait bon, qui va frapper. Mais là, finalement, t'as des surprises. Évidemment, des gars comme Fry là, qui arrivent, je dirais pas de nulle part, là, mais les gars qui produisent. Jimenez, son jeu était exceptionnel. On connaissait son talent, mais ces gars-là produisent des points. Alors, moi, je pense qu'une approche globale, une approche d'équipe dans ce cas-ci, qui donne des résultats. Et moi, et le succès d'éteint, évidemment, sur un succès d'un d'éteint sur l'autre, puis le succès d'équipe, à un moment donné, tu as l'impression que là, tu as une grande confiance. Alors, au lieu de te présenter au bâton, on a parlé des Jays il y a tantôt, c'est encore une des pires équipes. T'as l'impression que les gars arrivent et les gars en position de marquer et ils disent « Ah non, j'ai peur d'échouer. » Tu sais, ça prend pas grand-chose pour un frappeur de dire « Là, ouf, là, faut vraiment que j'y aille. » Tandis que, par exemple, avec les Guardians ou les Royals, c'est probablement « Bon, excellent, j'ai les courants en position de marquer, là, je vais faire le travail. » Tu sais, c'est deux attitudes qui sont très différentes, mais qui ont été amenées par le succès de l'un et l'autre, et là, ainsi de suite.
Écoute, Marc, juste les chiffres à l'appui de ce que je dis, là, Cleveland et Kansas City sont 1 et 2 dans la Ligue américaine. Avec des coureurs en position de marquer, c'est pas des blagues, là, avec des MPP 8,86 pour Cleveland, avec une moyenne de puissance près de 500, et 8,58 pour Kansas City. C'est en avant des Yankees au New York qui sont troisième, mais des Yankees sont bons à l'attaque. On s'attend à ce que des Yankees soient bons dans toutes les situations. Et dans le cas de David Fry, Marc, dans un cadre, dans une utilisation restreinte, c'est un des meilleurs de la Ligue américaine pour aider son équipe à gagner. Lui, que tu comprends, José Ramirez contribue fortement au succès de leur équipe. C'est juste, Marc, sur le plan équipe, moi j'ai des doutes sur le plan individuel. C'est là où je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Parce que, selon certains, puis là, je vais le nommer, là, Bill James, qui était le père de tous les statisticiens de baseball, là, il a commencé dans les années 70 à le populariser. Il y en a eu d'autres avant lui, mais c'est lui qui a été vraiment le premier à populariser ces tendances. Bill James disait que non, ça n'existe pas, parce que ceux qui sont rendus là sont au sommet de leur métier, puis ils savent ce que c'est la pression. Un instant, peu importe dans quoi vous évoluez, votre corps de métier, il y en a qui réagissent mieux sous pression, que ce soit dans mon métier, que ce soit un camionneur, là, parce que bon, il doit respecter là, une livraison à telle heure. Tu sais, peu importe, Marc, il y a de la pression dans chacun des métiers et certains, même lorsqu'on atteint les plus hauts niveaux, réagissent mieux que d'autres. L'affaire, c'est que ça se peut que ce soit difficile à quantifier, mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le quantifier que ça n'existe pas. Je veux juste dire, sur le plan individuel, oui, il y a des joueurs qui réagissent mieux. Mais tu sais, de penser que Cleveland et Kansas City vont maintenir ça toute la saison, il va falloir me convaincre.
Bon, écoute, moi, je veux dire, là, ce que tu dis est intéressant parce que, tu sais, Alain, tu as beau m'amener toutes les statistiques au monde, on ne connaît pas la confiance du joueur. Moi, je reviens là-dessus. T'sais, c'est toujours l'aspect humain, là, mais tu sais, es-tu en confiance comme un golfeur? Là, il peut être en... Tu sais, je veux dire, la confiance fait foi de tout. En fait, tous les joueurs, tous les sportifs, là, bon. Alors, mais ça, tu peux pas le quantifier. Est-ce qu'il est dans une mauvaise... Est-ce que, dans son approche, est-ce qu'il est dans un état d'esprit où il a pas confiance en lui pour toutes sortes de raisons? Ou au contraire, amenez-moi n'importe quoi, je vois la balle gros comme un ballon de plage. Alors, ça, tu peux pas le quantifier. Plus, tu as parlé de pression, de gérer cette pression-là, tout à fait. Tu sais, souvent, il y a des joueurs qui vont avoir une forte moyenne au bâton, par exemple, sans coureur sur les buts. Mais oups, avec coureur sur les buts, c'est plus difficile. D'autres, ça va être l'inverse. Alors, mais ça devient difficile aussi de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête des frappeurs. Chose certaine, lorsque même si toi, tu vas pas bien individuellement, mais l'équipe va bien, tu vas t'en sortir plus rapidement parce qu'il y a une ambiance plus positive. Et là, ben, c'est une histoire d'équipe. Alors, c'est vrai que maintenir ce tel rythme, ça va être extrêmement difficile. Mais pendant que tu es dedans, ben, essaie de garder ça le plus longtemps possible et t'amener et de te creuser, pas de creuser, mais d'augmenter ton écart vis-à-vis des autres équipes, là.
Oui, puis Marc, c'est pas parce que tu es dans une mauvaise séquence puis que tu as une bonne réputation que tu vas être meilleur dans les situations où c'est corsé. Puis l'exemple le plus frappant cette année, je regardais avant notre balado, là, celui qui est le pire de la Ligue américaine cette année, c'est Alex Bregman. S'il y a quelqu'un qui a confiance en lui, c'est bien lui. Puis George Springer est dans les 10 pires. Et c'est la même chose pour Randy Arozarena. Là, je viens de te nommer 3 joueurs qui ont des bonnes réputations dans les moments corsés. Mais Marc, quand ça va mal, ça va mal dans toutes les situations.
Écoute, Alain, ça va mal. Tu vois, la balle, c'est plus un ballon de plage, là. C'est une balle de golf. Ouais. Donc, tu vois pas grand-chose. Tu as l'impression que ton élan est lent. Ouais. Tu as l'impression que ton taux de contact diminue. C'est pas parce que tu as gagné ta vie avec ça pendant les 10-12 dernières années que tu as eu du succès que soudainement, ça va venir. C'est ça qui est difficile. Je me répète souvent, mais la durée d'une carrière moyenne d'un joueur de baseball dans les ligues majeures, c'est 4 ans. Ça veut dire qu'il y en a, il y en a qui font 10, 12, mais il y en a pas mal qui font juste quelques mois parce que c'est extrêmement difficile et surtout mentalement. Donc, c'est des aspects difficiles à quantifier ou à calculer là, au niveau statistique. Mais lorsqu'on est dans une bonne passe, autant individuelle que d'équipe, ben ça donne des résultats comme on voit avec les Guardians et les Royals de Kansas City.
Oui. En tout cas, Marc, c'est une discussion qu'on pourra avoir pendant un bon bout. Comme je te dis, c'est un débat là, qui a cours là, depuis, je te dirais, quelques décennies au sein de la communauté statistique. C'est le temps de la carte de la semaine qui est une présentation de cardtradeunion-depot.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 14 000 articles en vente sur eBay. Marc, on s'approche de la date du 2 juin qui est la date consacrée à la cause de la maladie de Lou Gehrig. C'est une carte de Lou Gehrig qu'on vous présente aujourd'hui, de 1927, que plusieurs considèrent comme étant la meilleure édition de l'histoire du baseball, l'édition de 1927 des Yankees de New York. Carte numéro 26. Gehrig qui suivait Babe Ruth, on se demande comment il a fait pour produire autant de points. Mais Babe Ruth se rendait quand même assez souvent sur les sentiers, avait son bon nombre de buts sur balle, donc Gehrig prenait les restants de Babe Ruth. C'est une carte de dimension, Marc, 5 cm par 4. C'est pas très grand, mais c'est un format qui était plutôt fréquent dans le temps. Et c'est un ensemble York Caramel. C'est l'entrée 210 de la catégorie E par The American Guard Catalog. C'est la catégorie E2, Early Gum et Candy Cards. Ou encore, si vous préférez, les premières cartes associées à ce qu'on appelait la gobe ballon ou les bonbons. Donc, comme je le mentionnais, le 2 juin, c'est la journée consacrée par le baseball majeur à la cause de la maladie de Lou Gehrig. Marc, tu as été associé beaucoup à cette cause par ton association avec le baseball.
Oui, absolument, absolument. Une cause, évidemment, qu'on tient à cœur encore aujourd'hui. Mais moi, dans le cas de Lou Gehrig, ben, c'est son histoire. Moi, je trouve tellement une histoire fascinante. C'est au début de carrière, en fait. Tu sais, que lorsqu'on parle de saisir l'occasion, de saisir le moment, Lou Gehrig, qui n'était pas un régulier, il avait est allé prendre la place d'un joueur de premier but soudainement, et puis il n'a jamais regardé derrière. Donc c'est des histoires fantastiques de Lou Gehrig. Quel joueur de baseball, hein? On retient évidemment le gars, bon, avec la maladie et tout ça, mais c'était vraiment un homme de fer, Lou Gehrig.
Ouais. Oui, sa séquence, c'est la maladie qui a mis fin en 1939 et 2 ans plus tard, il décédait de cette terrible maladie. Lou Gehrig, donc, la carte de la semaine.
C'est maintenant le temps de vous parler rapidement de notre segment Baseball Québec. C'est bien simple, Alain, aujourd'hui, on va juste se parler rapidement des parents, des spectateurs. Vous savez, on aime encourager nos jeunes, mais ce que je vous dirais, c'est lorsque vous amenez votre jeune au parc, laissez-le à l'entraîneur, laissez-le aller. La pire chose, c'est de s'installer derrière le grillage, derrière le marbre, puis commencer à donner des conseils à votre fils ou à votre fille durant un match de baseball. Encouragez-les. C'est tout ce qu'on demande comme, évidemment, organisateur, que ce soit les entraîneurs, peu importe. Venez encourager vos enfants. Soyez pas le parent qui crie après les arbitres, qui crie après son enfant parce qu'il a commis une erreur ou des choses comme ça. T'sais, ayons une ambiance agréable dans les parcs du baseball au Québec cette année. Évidemment, j'ai été témoin de plein de choses au cours des dernières années. C'est pas la majorité, évidemment, là, mais t'sais, soyons... assurons-nous de passer un bon moment lorsqu'on s'en va voir notre enfant. Je sais que parfois, c'est frustrant de voir un jeune arbitre qui prend une mauvaise décision puis ça affecte le rendement de votre enfant ou de l'équipe. Mais on s'entend là que, un, les arbitres, ce sont tous des jeunes étudiants pour la grande majorité. Les entraîneurs, ce sont des bénévoles. Les jeunes sont là pour s'amuser. Donc, assurons-nous de créer une belle ambiance, puis je pense que tout le monde va en bénéficier grandement. Je vous rappelle aussi, évidemment, la Balle d'Or, donc ce moitié-moitié de Baseball Québec cette année. On approche les 5 000 $, donc allez sur labaledor.com. Vous pouvez acheter vos billets-là. Tous ces profits-là s'en vont pour le baseball amateur au Québec. Il y a d'autres prix associés, évidemment, à la Balle d'Or. Alors, allez encourager les jeunes avec un bel esprit ouvert lorsque vous allez voir du baseball, mais aussi, si vous voulez financièrement aider la cause, bien, vous savez quoi faire.
Merci beaucoup, Marc, pour ce message très à propos. Marc, quelques sujets rapidement pour terminer ce balado. D'abord, au cours de la dernière semaine, sur le plan technique télé, il y a eu un petit problème qui a touché le match entre les Tigers de Détroit et les Blue Jays de Toronto, et ça n'a pas seulement touché l'équipe de diffusion, ça a touché tout ce qui entoure le stade. Donc, pas seulement les diffuseurs des Blue Jays, les diffuseurs des Tigers, et tout ce qu'il y avait comme information électronique. Notamment, on n'avait pas la vitesse des tirs. Et Kevin Gausman, il est allé, après le match, un commentaire intéressant, disait, ça m'a peut-être favorisé parce que je pense que je n'avais pas ma balle rapide habituelle, mais les Tigers ne le savaient pas parce qu'on n'avait pas la vitesse des tirs. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, Marc, mais est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à quelque chose qu'on avait auparavant, c'est-à-dire finalement de se fier à nos yeux?
Ben non, on ne pourra pas revenir parce que ça fait partie de l'élément baseball. Les gens veulent savoir quelle est la vitesse des tirs. On veut cette information à l'intérieur du stade. Malheureusement, pour Gausman, ça n'arrivera pas. Mais ça me fait penser, là. T'sais, c'est quelqu'un qui prend toujours son cellulaire à tous les jours. Puis à un moment donné, il se dit, je vais serrer ça pendant une journée ou pendant une semaine, pendant vacances. Puis là, on réalise que on est-tu bien sans cellulaire? C'est un peu la même affaire qui se passe avec qui s'est passé dans ce dossier-là. Et malheureusement, ça c'est comme la fameuse petite boîte de prise qu'on voit à la télévision, tu sais. Faudrait peut-être l'enlever pour arrêter de critiquer les officiels, mais les gens la veulent, cette zone de prise-là. Donc on veut l'information, on veut savoir que Mason Miller lance à 103. Pas à 99, mais à 103. C'est 103, c'est spectaculaire. Donc, ça fait partie du spectacle maintenant.
Bon, Marc, on va parler de ce qui se passe dans la Ligue américaine Ouest, là, parce que c'est la pire section de tout le baseball majeur. Là. Je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de décrire ce qui se passe là-bas. De sorte que même les Astros de Houston sont dans la course présentement. Ils sont troisième à 3,5 matchs des Mariners de Seattle, qui est la seule équipe qui joue pour 5.
Puis je vais dire une chose, je regardais les statistiques en attaque des Astros, ils s'en viennent. Là. Les Astros s'en viennent. Ça s'est mis à frapper davantage. Alors c'est sûr que, il faut empêcher l'autre équipe de marquer aussi. Là. Il y a d'autres défis encore, mais je pensais pas dire à la fin du mois de mai que la division Ouest de l'Américaine serait la pire du baseball. C'est quand même, tu sais, tu parles des Mariners, c'est probablement parmi les meilleurs, le meilleur rotation partant, certes, dans les trois premiers, là, mais on n'est pas capable, dû à une attaque un peu plus silencieuse, de se donner une avance confortable. Les Rangers en arrachent à bien des égards. Les Astros, avec ce début de saison épouvantable, la blessure de Mike Trout a grandement affecté, évidemment, les Angels. Et là, on a les A's d'Oakland. Donc, c'est quand même surprenant. Je crois que ça va se stabiliser, mais moi, si tu me demandes si une équipe pourrait vraiment reprendre sa place, ce sont les Astros. J'aime ce que je vois. Il n'y a pas de bon début de saison de certains joueurs. Tu as parlé de Bregman tout à l'heure. C'est dans ses habitudes de commencer lentement. Donc, si une équipe à surveiller là, dans cette section-là, ce sont les Astros, selon moi.
Oui, les Rangers, t'inquiète.
Les Rangers m'inquiètent, moi. Les Rangers m'inquiètent. On ne sent pas, tu sais, tu as parlé tantôt justement de la moyenne au bâton avec des coureurs en position de marquer. Il y a moins de magie cette année à ce niveau-là. La blessure de Young en début de saison a nuit beaucoup, je pense, aussi à cette équipe. Il y a quelques facteurs. Écoute, c'est une très bonne équipe, mais on sent pas cette énergie comme l'année dernière. Faut pas oublier qu'on a fait les séries, par la porte de côté avec les Rangers l'année dernière. Okay. On a remporté la série mondiale, mais c'est pas c'est pas garant d'une deuxième année consécutive où on peut surprendre. Alors, ça reste à voir, mais aujourd'hui, j'ai plus confiance de voir les Astros là, se lever davantage.
Ouais. Marc, deux autres trucs pour terminer. J'ai vu quelque chose cette semaine, et tu l'as remarqué aussi, Anthony Rizzo au bâton qui était contre Dylan Cease, dont la balle courbe fonctionnait beaucoup. Et on a vu Rizzo s'avancer dans le rectangle pour éliminer l'effet de courbe, en fait, de prendre le tir devant avant que la balle prenne son effet. J'ai déjà vu ça à la softball, je l'ai déjà fait contre une bonne balle tombante, mais là, on parle de softball, là, tu parles du baseball majeur. Moi, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça souvent, quelqu'un qui avance et de façon là, significative là, pour justement contrecarrer la balle à effet de l'adversaire.
Ben, écoute, souvent, là, dans une certaine époque, on enseignait, tu sais, soit à la même place dans le rectangle, soit toujours au même endroit. Pourquoi? Parce que là, tu vas connaître vraiment ta zone de prise, tu vas savoir où les tirs. Bon, dans ce cas-là. Mais c'est moins vrai aujourd'hui, parce qu'encore une fois, les lanceurs ont su s'adapter, on a développé des tirs qui bougent davantage. Moi, j'appelle ça le fameux baseball QI. Là. On en a parlé à quelques reprises, Alain, là, de cette intelligence sur le terrain, cette adaptation à différentes situations, à anticiper le jeu. Rizzo a toujours été excellent à ce niveau-là. Et là, il a poussé la note davantage. Et là, ce que tu dis, il s'est avancé, là, c'est qu'il s'est avancé, il s'installe, le lanceur prend les signaux, et une fois là, que le lanceur semble prêt, c'est là qu'il se met à avancer. Là. Pas avant la présence. Là. Il est vraiment... Donc, il le fait sur deux tirs consécutifs à un certain moment donné. Un autre tir, il est resté derrière. Alors, c'est comme si lui, dans sa tête, il anticipe un lancer. Il avait un compte de deux prises dans ce qu'il a fait. Et effectivement, au lieu d'avoir un... S'il était resté au même endroit, le tir aurait été en bas des genoux. Donc, difficile évidemment à frapper. En s'avançant, la balle est arrivée à peu près à la hauteur des genoux. Sûr de deux points pour Anthony Rizzo. J'ai trouvé ça brillant de sa part. C'est un ajustement. Est-ce que tous les frappeurs peuvent faire ça? Absolument pas. Est-ce que lui peut le faire? Oui, parce que dans sa manière de frapper, tu sais que c'est un gars qui coupe son bâton, qui a un élan qui est très court, qui est à la balle. Il voulait faire contact. C'était une situation que s'il met une balle en jeu au milieu de l'avant-champ, il allait au moins produire un point. Moi, j'ai trouvé ça brillant. J'ai trouvé ça brillant parce que dans ce moment présent-là, c'était la chose à faire. Hey, écoute, si ils auraient pu y arriver avec une rapide haute, un petit peu haute dans la zone, puis probablement qu'il aurait figé ou bon, c'est terminé. Mais il a bien paru en anticipant peut-être les tendances de Dylan Cease dans cette situation-là. Bravo, parce que le sport est un... Le baseball, en fait, tous les sports, mais le baseball est un sport d'ajustement, mm-hmm. d'adaptation sur la situation actuelle, et c'est exactement ce que Rizzo a fait. Pas pour rien que les Yankees vont bien actuellement. Ouais. Là, tout le monde semble jouer de la bonne balle, semble avoir une idée de ce qu'on fait lorsqu'on se présente au bâton.
Dernière chose, Marc, il y en a qui ont l'épiderme plutôt sensible. Chris Martin en est un avec les Red Sox de Boston. Écoute, ça s'embrasse un petit peu dimanche hein, contre les Brewers de Milwaukee. Quand j'ai vu les images, Marc, et j'avais vu la manche au complet, je me doutais un petit peu ce qui avait froissé Chris Martin. Quentin Berry ne l'a pas accepté. Puis on a eu la confirmation avec les propos de Chris Martin. Il n'a pas aimé le fait que les Brewers aient déposé deux amortis au cours de la manche. Moi, je ne sais pas, mais j'affronte Chris Martin dans un prochain match. Tu peux être sûr que je vais déposer l'amorti contre lui?
Il y a souvent cette loi non écrite au baseball de se dire tu ne peux pas déposer des amortis à tel et tel moment dans le match ou tel et tel pointage. Écoute, l'amorti fait partie du jeu, là. L'amorti, c'est un coup sûr. C'est une manière de faire, tu sais, de surprendre la défense ou de faire avancer un coureur, même si c'est pas un amorti sacrifice. Alors, en tout cas, moi, là, je suis la mauvaise personne là, pour dire que c'est pas une bonne chose de déposer un amorti. Alors, moi, Chris Martin, là, oublie ça. Lequel, je veux dire, écoute, est-ce qu'il était frustré? Pourtant, il a bien lancé. Pourtant, il a bien... Tu sais, c'est pas comme s'il y avait une situation où il s'est fait complètement cogner. Je comprends pas, moi. Je comprends pas cette frustration vis-à-vis les Brewers qui vont très bien, soit dit en passant, une belle surprise dans la Ligue nationale. Alors, j'accepte mal. Je peux comprendre un Quentin Berry qui dit, mais voyons donc, là, c'est quoi ces propos-là? pense que Martin va le regretter, moi, ses commentaires. Premièrement, on a le match a été retardé combien de temps à cause de cette affaire-là. Là? Mais il a mal paru, moi, je pense, Martin, ouais. Là-dessus. Puis je suis d'accord avec toi. Si on l'affronte, là, pourquoi pas en déposer 3-4 juste pour la faire sortir de son match.
Ben, écoute, Marc, je pense que les Brewers, ça faisait peut-être partie du plan contre Chris Martin. Il a bien réagi, ceci dit. Il a réussi les retraits à deux occasions. Sauf que s'il n'aime pas ça, ben là, tout le monde le sait. Je te dis juste que généralement, s'il y a une faille, ben, tu peux être certain que l'autre équipe va en profiter. Bon, c'est juste qu'il s'est exposé lui-même en faisant ce qu'il
a fait. Ben, c'est sûr.
Je trouve pas ça très, très brillant. Là.
Non, je pense qu'il a perdu une belle occasion de se taire.
Exactement. Marc, c'est temps de mettre de l'avant les matchs qu'on va présenter cette semaine. Il n'y a pas de match mercredi, on vous le dit tout de suite. L'horaire des matchs télévisé cette semaine, présenté par la boutique des fans. C'est votre boutique de cartes sportives et d'objets de collection située à Hawkesbury. En plus de vous offrir des cartes Pokémon Magic the Gathering et des figurines Funko Pop, et évidemment, consultez la boutique des fans.ca. Deux matchs ce lundi, et c'est à 18h30. On verra les Marlins de Miami et Otto Lopez contre les Padres de San Diego. Luis Arraez qui frappe pour près de 400 depuis son acquisition des Marlins. Donc, va retrouver son ancienne équipe. Et dimanche, on verra la meilleure équipe de la Ligue nationale, les Phillies de Philadelphie contre les Cards de Saint-Louis. C'est un match qui va commencer à 19h. Dans les deux cas, les matchs seront présentés à RDS2. J'espère que ce balado vous a plu. On vous souhaite une excellente semaine de baseball. À très bientôt.
Balado Compte Complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville. Fier partenaire de votre passion.